Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour 1 heure. C'est du coq à l'âne. Aujourd'hui, cela s'appellera peut-être du coq à l'ours. On vous en dira plus tout à l'heure. Pour cette nouvelle émission, donc, je reçois l'artiste Abraham Poincheval. Bonjour, Abraham.
Bonjour.
Ainsi que Laurie Honoré, qui est chargée de la médiation du musée Gassendi de Digne. Bonjour, Laurie.
Bonjour.
Bien, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je reçois Abraham Poincheval. C'est un nom qui sonne, j'allais dire un nom qui est trop vrai pour être véridique. Est-ce que c'est un pseudonyme, Abraham Poincheval?
Non, non, c'est mon véritable nom et mon véritable prénom. J'ai pas eu besoin de trouver un pseudonyme.
Alors, dans les médias, on vous considère, on vous qualifie d'artiste spécialiste des performances picaresques. Alors, un petit rappel de picaresque, cela se dit donc dans les bons dictionnaires, cela se dit d'œuvres littéraires dont le héros traverse toute une série d'aventures qui sont pour lui l'occasion de contester l'ordre social établi. Alors, est-ce que picaresque est un bon adjectif pour qualifier ce que vous faites, Abraham Poincheval?
Oui, je crois qu'il me correspond assez bien, oui. Oui, je suis assez. Je trouve que c'est une belle définition, ça va.
Alors, comme tout artiste, donc, vous constituez des œuvres. Ce sont des œuvres un petit peu atypiques, l'on va dire. Par exemple, creuser un trou dans le sol d'une librairie et s'y enfermer pendant une semaine avec un rocher d'une tonne sur la tête, enfin sur la tête, en dessus du trou, parcourir la distance entre Digne et Caraïo, c'est-à-dire la voie de l'art contemporain, la route de l'art contemporain, avec une capsule en aluminium, ce genre de choses. Alors, est-ce que vous pouvez parler donc de ces performances? D'où vous vient cette idée-là?
D'où me viennent ces idées, ça je ne sais pas toujours parce qu'en fait ça vient souvent de plus loin que ce que l'on croit d'où elle est venue. Enfin, c'est-à-dire au moment où elle apparaît, on se dit ça y est, j'ai trouvé le projet, et puis en même temps on s'aperçoit que ça peut venir d'ailleurs, mais d'où on ne sait pas, et c'est ça qui est bien. Mais non, ce qui m'intéresse dans tous ces projets, c'est simplement de se poser la question sur le monde. Voilà, on en a une description à peu près, on arrive toujours à trouver des descriptions des choses et de se dire, mais est-ce que ce que l'on a devant nous et la définition que l'on nous donne, est-ce réellement ça, la réalité, la vérité? Et donc voilà, d'aller chercher simplement, peut-être d'aller gratter un petit peu ou de contourner ce que l'on dit et d'aller voir un peu plus par soi-même, voilà. Et puis aussi cette notion d'atelier qui est très liée d'une certaine manière à l'art. Et puis il y a beaucoup d'artistes qui s'étaient posé cette question-là. Dans les années au plus proche de nous, ce serait les années 50-60, sur est-ce que l'art est-il toujours dans le lieu de l'atelier, et de prendre simplement tout ce qu'on a autour de nous comme un atelier potentiel. Voilà, donc c'est là que je pense que se situe la plus grande partie de mon travail. Je ne dirais pas qu'il n'y a que là, heureusement, parce que aussi c'est de me laisser aussi le maximum de liberté. Voilà.
Alors justement, pour en revenir à ce trou dans le sol d'une librairie, c'est un projet qui s'appelait 604 800 S ou moins 604 800 S, je ne sais pas exactement, mais quelle est cette signification?
604 800 S, en fait le S est égal à seconde, et en fait 604 800, en fait c'est le nombre de secondes qui s'écoulent en une semaine. Donc voilà, et c'était simplement pour dire que pendant une semaine, j'étais absent de la surface de la Terre. Et j'étais pas très loin, j'étais juste en dessous. Donc voilà, dans un trou de 60 cm de diamètre sur à peu près 1,70 m de hauteur. Et voilà, et c'était d'être enfermé dans ce trou et de se poser la question, une question assez simple, en fait, je pense qu'on se pose tous, c'est lorsqu'on lit des livres, parce que là c'était dans une librairie, il y a un moment en fait de décrochage. auquel où tout à coup on n'est plus tout à fait à l'endroit où on lit, on est dans le livre, mais un endroit où on ne saurait trop décrire. Enfin, on est entre le livre et l'endroit où on est assis. Et j'avais envie d'expérimenter ce lieu, cet espace, et parce que aussi c'était une façon aussi d'expérimenter aussi le début de mes projets, parce que pour une grande partie, enfin pas tous, mais pour la plus grande partie, mes projets naissent de lectures en fait que j'ai fait et qui tout à coup ressurgissent. Tout à coup, je me dis, mais ah oui, il y avait ce truc-là, c'était incroyable ça, cette question. Par exemple, bon voilà, du voyage sous terre, voilà, ça c'est dans la littérature, il y a énormément de récits là-dessus. Et donc voilà, de partir comme ça à l'aventure, à la fois physiquement, réellement, c'est-à-dire d'être enfermé sans pouvoir bouger, simplement assis, et sans pouvoir vraiment se lever, et puis d'avoir des livres avec soi et d'essayer, voilà, d'expérimenter comme une sorte de cellule. Et puis je trouvais ça aussi intéressant pour une autre chose, c'est que j'avais fait juste avant, enfin je finissais Girovague, le voyage invisible, qui était dans une capsule spatiale, là qui était au ras du sol, mais dans la partie au-dessus, en fait, enfin, dans notre partie plus habituelle, que je poussais, où pour moi c'était un peu comme le Vostok de Yuri Gagarin, en fait, c'était un peu similaire à cet objet, et où je racontais qu'en fait, d'une certaine façon, comme Yuri Gagarin, je faisais mon premier voyage spatial, comme ça, dans cet objet. Et là, je me disais, voilà, est-ce que je pourrais aussi créer une sorte de capsule, mais là, sous terre. Et ce qui a fait d'assez amusant, c'est que pour normalement fabriquer des capsules, on rajoute de la matière pour fermer un espace. Et là, pour fabriquer cette capsule, c'était tout différent. Il fallait creuser, il fallait en enlever et juste poser une pierre au-dessus. Et voilà, ça devenait une capsule spatiale. Donc voilà, c'était un peu à la suite de ce projet. En fait, souvent toutes les choses se suivent, parce que quand je parle d'atelier, c'est vraiment aussi, c'est pas simplement métaphoriquement, c'est vraiment un lieu d'atelier, dans le sens où c'est vraiment un lieu où se mettent en place les prochains projets. Donc voilà.
Et donc cette expérience dans le sous-sol de librairie a-t-elle répondu à cette fameuse question qu'on évoquait il y a quelques minutes ?
Alors, c'est-à-dire celle de la lecture ? Elle y a répondu, même un peu plus fortement que ce que j'avais pu imaginer. C'est que j'étais, je peux dire, absolument éclaté en mille cellules à l'intérieur de ce trou. C'était assez étrange, parce que ce qui s'est passé, c'est que très vite le jour a rejoint la nuit. En fait, il n'y avait plus de nuit ni de jour. Bon, déjà, j'étais à peu près dans l'obscurité. La seule lumière que j'avais, c'était ma frontale. Et tout à coup, en fait, vous rêvez en fait du trou, et vous rêviez dans le même trou. Donc du coup, il n'y a plus de séparation comme ça du rêve à la réalité. Et quand vous lisez, petit à petit, ce que vous lisez fait partie intégrante de l'espace dans lequel vous êtes. Et donc, comme ça, il y a une sorte de mix. Comme ça, il n'y a plus du tout, tout est poreux. Et il y avait eu un moment assez incroyable dans ce projet, c'est qu'à la fin, c'était mis un peu dans la librairie. Ils avaient prévu une lecture, parce que c'était, je ne sais plus quel festival à Marseille. Et donc il y avait quelqu'un, un poète belge dont malheureusement je ne me rappelle plus le nom ici, mais qui devait faire une lecture. Et au départ, ils avaient proposé de faire la lecture dans le jardin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un jardin près de ce lieu. Et j'avais dit, s'il est OK, moi je serais très content qu'il fasse la lecture dans le lieu de l'exposition, enfin dans le lieu où on voyait la pierre. Et donc lui était plutôt emballé et il disait, et surtout ça tombe bien, parce que en fait c'est marrant qu'il y ait ce projet-là, parce que mon texte rappelle un personnage qui serait enfoui sous terre. Et donc c'était assez incroyable, parce que donc du coup là j'étais, alors ce qui était assez marrant, c'est qu'ils ont mis des chaises, du coup, donc il y avait toutes les chaises, il y avait la pierre au milieu des chaises, comme si la pierre était en train d'écouter ce qu'on allait raconter. Et donc ce poète a commencé son récit en disant c'est l'histoire d'un mec, et voilà, qui au départ est dans la forêt et qui tout à coup rentre dans une maison, et dans cette maison il rencontre une femme qui dit que son enfant est dans une armoire, et cette armoire est dans la cave, et ils descendent dans la cave, et dans la cave tout à coup il y a un glissement de terrain, et puis il y a des Camerounais qui arrivent, qui ont été largués là d'un camion, qui sont des sans-papiers, et qui se retrouvent là et qui font une fête incroyable. et il y a un autre glissement de terrain, il y a l'eau qui coule, et donc voilà, il y a ce mec qui est dans le fond de la cave et qui marche comme ça. Et au fur et à mesure de son récit, en fait, je devenais ce mec. C'était absolument génial. J'en prenais toutes les propriétés. Tout ce qui lui arrivait m'arrivait. À un moment, il était traversé, il y avait un truc, il y avait un glissement, il se recevait une barre en métal. Je ressentais la barre en métal et c'était absolument génial. Et du coup, je me suis dit, oui, vraiment, c'est ça qui est incroyable. C'est tout à coup, j'étais absorbé, entièrement absorbé par ce lieu. Et je devenais quelqu'un d'autre à l'intérieur. Donc voilà, c'était assez, assez magique pour ça. Et ça faisait suite aussi à un autre projet qu'il y avait eu plus longtemps, quand je travaillais en binôme avec Laurent Tixador en Espagne, dans une biennale d'art contemporain, ou à Murcia, où on avait fait un projet d'avancer de 20 mètres pendant 20 jours, à peu près 1 mètre par jour, sous terre, pareil. Bon, là, il y avait beaucoup plus d'espace. Hein. Là, la position était statique. Dans l'autre, il y avait un déplacement réel, physique. Et j'avais été assez sidéré par la puissance, en fait, de la Terre, en fait, cette puissance de digestion qu'elle a, d'absorption, de pouvoir tout avaler très, très vite. Et donc, du coup, je trouvais ça intéressant de retenter aussi ça à l'intérieur de ce lieu, en fait. C'était une sorte de voyage sans mouvement, un voyage statique, mais un véritable voyage.
Et il y a peut-être aussi une constante dans vos expériences, c'est l'enfermement, que ce soit sous terre, dans une capsule, voire sur une île comme l'île du Frioul. Vous avez pensé à cela ? Est-ce que l'enfermement est important dans votre démarche ? Ou est-ce que c'est un hasard, entre guillemets ?
Ben, je crois que ça se passe simplement de habitudes que l'on a en tant qu'être humain de tous les jours. Il y a une position où on est en mouvement et une autre où on est statique. Voilà, c'est juste, je pense, ça reprend simplement ces deux habitudes qui sont avec nous pendant toute notre vie. Donc voilà, c'est juste de questionner sur ces points-là. En fait,
mais ceci dit, on peut être statique, mais statique au milieu d'un espace quasiment infini.
Oui. Non, mais c'est la chose, c'est qu'en fait, on n'est jamais réellement statique. C'est-à-dire qu'on est enfermé, mais en vérité, on n'est pas tout à fait enfermé. Enfin, voilà, c'est aussi de questionner ces espèces de frontières, ces porosités. Du mouvement au non-mouvement, en fait, qu'est-ce que c'est ? Enfin, voilà, moi, je trouve ça assez fort. Par exemple, il y a des voyages que je trouve assez incroyables, comme... alors lui, pour le coup, c'est pas un artiste, mais c'est plutôt un aventurier contemporain qui a fait ce voyage au pôle Nord en plein hiver, donc dans la nuit, et qui raconte ce voyage dans l'obscurité la plus totale, et ils avancent, et on peut dire que c'est absolument statique finalement, parce que rien, il n'y a aucun paysage, il n'y a aucun élément qui puisse donner du mouvement. Le seul mouvement, c'est leur pas, c'est eux qui le donnent. Et je trouvais ça assez fort parce que je me disais, mais finalement, c'est comme si c'était une sorte de voyage dans leur inconscient, quoi. Comme s'ils se baladaient en eux-mêmes, quoi. Et malheureusement, cette personne n'est pas un grand poète, mais. Mais voilà, on sent quand même ces pointes comme ça qui surgissent de temps en temps, et je trouve ça assez intéressant.
Donc finalement, tout cela, ce sont des voyages intérieurs.
Oui, de toute façon, ouais, tous les voyages, enfin, je sais pas, j'imagine que beaucoup de voyages sont des voyages intérieurs, enfin, et c'est aussi des voyages qui sont bien souvent aussi liés à des histoires de l'enfance, je pense aussi.
Pardon, on va faire une petite pause musicale, ce qui me permettra d'une part de retrouver ma voix et ensuite de respirer un petit peu. Thank you. Bien, nous reprenons l'entretien donc avec Abraham Poincheval, qui est artiste, et Laurie Honoré, qui est chargée de la médiation du musée Gassendi à Digne. Donc, Laurie Honoré, par rapport à ce que l'on disait, ces voyages intérieurs, ainsi de suite, ça vous a inspiré donc une petite réflexion?
Ah non, je me disais que le point commun, effectivement, entre les différents projets d'Abraham, c'était pas l'enfermement, c'était le voyage. Et effectivement, avec ce paradoxe qu'on peut avoir des voyages tout en étant immobile, et des voyages intérieurs, ou alors dans le passé, liés à la mémoire, ou dans d'autres cultures aussi, par les évocations de chaque œuvre. Et c'était d'ailleurs le cas du projet Girovague, le voyage invisible, qui était vraiment un voyage, mais là, tout à fait dans l'espace, entre Digne et Caraglio, pour matérialiser un petit peu la route de l'art contemporain. Donc ce projet...
On peut dire deux mots de cette route de l'art contemporain?
Voilà,
nos auditeurs ne connaissent peut-être pas.
Donc c'est un projet initialement pour relier deux centres d'art, donc le centre d'art Le Cairn de Digne et le centre d'art Filatolio de Caraglio en Italie. Et c'est un projet européen, transfrontalier, qui a été porté par le Conseil général des Alpes de Haute-Provence. Et tout au long de cette route de l'art contemporain, donc le long de la D900A, il y a eu des artistes sont venus installer des œuvres. Et puis il y a aussi des artistes qui ont fait des workshops, donc des œuvres éphémères. C'est le cas d'Abraham avec cette performance...
Donc Abraham qui lui a concrétisé réellement cette route de l'art contemporain en la parcourant donc à pied et dans sa capsule.
Oui, alors voilà, c'est-à-dire que moi, quand on m'a proposé le projet, je me suis dit, bon, la route de l'art, je dis, ah ben, déjà la route, ça veut dire c'est un truc sur lequel on chemine. Et puis, bon, j'étais intéressé par cette histoire de deux points comme ça à rallier. Et puis, bon, il y a toute une histoire, je pense, au point de vue sur le territoire, avec le colportage, aussi le voyage, comment ça s'appelle, des brebis, des moutons, la transhumance, des choses comme ça. Donc il y avait tout ça, et puis aussi il y avait une pratique des artistes aussi, beaucoup plus ancienne, des artistes français qui allaient se nourrir de l'art italien, et donc en fait qui passaient d'un point à l'autre. Donc je trouvais ça assez amusant par rapport au musée de Digne, qui est un musée qui mixe en fait un art classique, je ne sais pas si on peut dire classique, mais en fait un art du 16e, 17e, 18e jusqu'au 19e, un art contemporain, voilà. Et donc voilà, de tout ça, de mélanger tout ça, et de se dire, bon alors qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et puis dire, ben, simplement, moi je fais mon voyage aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est de faire un voyage aujourd'hui en tant qu'artiste, et au travers de toute cette histoire. Donc voilà. Mais du coup, je me disais, bon, mais pour faire ce voyage, il me faut quelque chose, il me faut un élément qui donne une sorte de sens, pas un sens, mais je sais pas, qui donne quelque chose de plus à simplement faire le voyage à pied. Et là, moi je découvrais un peu ce territoire de la montagne parce que je connais pas beaucoup. Je me disais, voilà, j'aimerais bien avoir comme une sorte d'objet qui enregistrerait, c'est-à-dire qui serait à la fois un véhicule, un habitat et un lieu d'enregistrement. Donc, du coup, vient tout de suite cette idée de la capsule, du voyage spatial, comme je l'avais dit tout à l'heure avec Yuri Gagarin, du premier voyage satellitaire. Donc je me suis dit, moi, je serais une sorte de satellite, mais vraiment au ras du sol, en fait, comme ça, qui avancerait. Et qui avancerait aussi très lentement, puisque le seul moteur de cette machine, c'est moi. Avec mes 50 kilos, je pousse un truc de 70 kilos. Donc je le pousse très lentement dans un paysage qui est plutôt escarpé, pentu.
On pourrait décrire ces deux capsules pour avoir une idée.
Cette capsule, c'est très simple. Hein, c'est un bout de cylindre qui fait 1,70 m de diamètre sur 80 cm de largeur. Donc 80 cm, c'est juste pour que je puisse être allongé à l'intérieur. Parce que ce qu'il faut se dire, en fait, voilà, c'était aussi de se donner, de se dire, alors qu'est-ce que c'est un paysage montagneux? Qu'est-ce que c'est que le paysage? Et de se dire, voilà, alors je vais choisir 4 saisons de voyage. Comme ça, je vais essayer d'enregistrer sur les 4 saisons. des choses différentes, de découper sur le temps, voilà. Et donc du coup, ça, cet objet aussi m'oblige à prendre le temps, parce que voilà, du coup, c'est lourd, il faut faire attention. Donc on est obligé, on a une attention obligatoire à l'espace que l'on parcourt. Et donc voilà, puis physiquement aussi, on est obligé de faire des efforts au quotidien. Et donc du coup, cette attention au paysage, elle donne beaucoup plus, ça augmente ma sensibilité à cet espace. Et voilà.
Est-ce qu'on peut dire par jour combien de kilomètres étaient parcourus avec
Alors en fait, par jour, c'était... au départ, moi, j'avais calculé pour me laisser de la marge, pour être tranquille, j'avais calculé 5 kilomètres par jour. Bon, en fait, je suis arrivé, c'était variable. Hein. Il y avait des jours, il y en avait 5, il y en avait d'autres 10. Ça pouvait aller jusqu'à 15 maximum, quoi. Donc voilà.
Donc cette capsule a roulé sur tous les terrains, l'asphalte...
De l'herbe, dans les forêts, dans les cailloux, dans les rochers, enfin voilà, elle a tout fait, dans l'eau, dans les ruisseaux, on a tout passé.
Capsule qui est visible, hein, qui a survécu à l'aventure.
Oui, qui a survécu, qui a eu un accident, mais qui a survécu et qui est aujourd'hui présente encore, je crois, pour une petite semaine au Cairn.
Oui, voilà. C'est jusqu'au 30 juin. Oui.
Voilà, donc avec tout le matériel, avec une partie du matériel, et puis aussi des pièces que ça a donné, que ça a créé, parce que ceci est un outil où l'on glane, en fait, donc on peut stocker certains éléments, et petit à petit, ces éléments sont transformés au fur et à mesure du voyage.
Par exemple ?
Par exemple, comme des herbes séchées, des insectes, des ossements, enfin voilà, ce genre de choses. Quelques photos aussi réalisées, pas tout à fait comme je l'avais souhaité au départ, mais bon, enfin voilà, qui sont présentes.
On peut parler de ces photos ?
Alors en fait, ces photos, c'est simplement... parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était ce retournement du paysage. Parce que Yuri Gagarin, il disait un truc assez génial quand il revient de son voyage. À un moment, c'est un discours rapporté, donc on ne sait jamais trop ce qui est de l'ordre de la réalité et d'une sorte de mythologie, ouais, voilà. Et il dit, voilà, ils sont tous les deux, et donc Yuri Gagarin est descendu, il y a le prochain qui va partir, et alors ils sont là, il y a le coucher de soleil devant, et l'autre lui demande, à quoi tu penses? Et il dit, je pense à quelqu'un qui regarderait un coucher de soleil sur une autre planète, mais à l'envers. Enfin, le soleil se coucherait, et je trouve ça absolument, et je me dis, ouais, c'est génial ce retournement comme ça des choses, où là il y a toujours comme ça cette idée un peu comme dans le voyage d'Alice au pays des merveilles, l'autre côté du miroir, des choses comme ça. Et là je me dis il faut que je sois un peu dans cette magie de la découverte, et comme si c'était la première fois que je voyais quelque chose. Et je me dis la première fois, la chose qui change le plus, qui je pense fait un effet vraiment fort sur un espace que l'on croit connaître parfaitement, c'est lorsqu'on le retourne. Et c'est la magie, en fait, de la caméra obscura. Et là aussi, un outil employé par les peintres depuis très longtemps. Et puis maintenant, on dit même qu'il semblerait qu'à l'époque préhistorique, certains hommes l'aient utilisé. Donc du coup, ça crée... Et puis du coup, cette capsule devient aussi le paysage, mais un autre paysage. C'est-à-dire qu'elle amène le lointain, ce qui est très loin de nous, le paysage lointain, à l'intérieur, donc très proche, parce qu'elle ramène sur 80 cm...
Quand vous parlez de retournement, c'est ce qui se passe dans un appareil photo, c'est-à-dire que l'image est la tête en bas, si l'on peut dire.
Oui, ce qu'on appelle, en fait, c'est aussi l'outil de la pré-photographie, tout ça, c'est le début de l'enregistrement du monde, en fait. Et donc, du coup, voilà, il y a tout ça qui se mêle aussi dans cet objet, dans cette capsule. Et j'avais envie, en fait, de ressentir, je me disais, il faudrait presque ressentir la même chose lorsque la première personne part dans l'espace et qu'elle voit la Terre de l'extérieur, et tout à coup la première sensation que ça fait, qu'on éprouve, et j'avais envie d'avoir à peu près la même sensation mais là au ras du sol. Donc du coup voilà, donc c'est pour ça que j'avais créé cette espèce de boîte, quoi, de boîte noire, de boîte magique, enfin voilà.
Tout cela est extrêmement poétique, c'est peut-être une des définitions de la poésie ou de l'art, c'est de redécouvrir, de porter un regard neuf sur des choses familières.
Là c'est vraiment ça. Enfin, c'est de prendre les choses qui sont les plus simples, qui sont presque tout le temps autour de nous, et de les prendre pour des choses acquises, mais des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Enfin, on peut se dire, tiens, mais ça c'est comme ça, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Voilà.
Donc un voyage qui s'est terminé normalement.
Ouais,
puisque la capsule est arrivée, en Italie, en Caraglio.
Ouais. Et voilà, et on a présenté les pièces. Et voilà. Et c'est là aussi qu'est née, du coup, en fait, aussi cette idée de découpage de l'exposition en deux temps. C'est là aussi qu'est née cette histoire d'ours, en fait.
Oui, et puis ce livre, d'abord, avant de parler de l'ours. Vous parliez de poésie. Effectivement, Abraham, il a écrit un très beau texte qui raconte le voyage dans le livre « L'épaisseur de la montagne ». Un livre d'artiste, il y a l'édition.
Voilà. Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, enfin, dans les projets artistiques que je mène, c'est que les pièces soient. En fait, voilà, qu'il n'y ait pas qu'un objet qui restitue, enfin, qu'une œuvre qui restitue le projet, mais une multitude de choses, et qu'en fait, que toutes ces choses sont des parties intégrées du projet, de l'œuvre qui est présentée par la suite. Et ça, c'est, enfin voilà, comme j'aime aussi découper le temps de l'exposition, c'est aussi des choses qui me plaisent beaucoup, qu'on soit pas simplement dans un temps figé, le temps de l'exposition, mais qu'on puisse aussi penser, découper les choses, les morceler, pour les faire vivre différemment. Et ça, je trouvais ça assez important, cette idée du livre, dès le départ, en fait, parce que, en fait, le livre est apparu très très vite dans le projet, Girovague.
C'est le carnet de voyage.
Hein, c'est le carnet de voyage, ouais. Et du coup, en fait, c'est aussi une œuvre, en fait. Et voilà, puis en plus, c'est plutôt bien sur l'idée, par exemple, sur l'économie, parce que c'est une œuvre à petit prix, donc que tout le monde peut emporter chez soi et tout le monde peut emporter ce bout du voyage chez lui. Et ça, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est voilà, comment d'un objet, d'une chose, on peut réussir à l'éclater, à presque le disséquer, en fait, les choses, et de faire que comme ça, le spectateur, lorsqu'il arrive dans le lieu ou lorsqu'il regarde le livre, il puisse lui aussi monter son propre voyage au travers de toutes les pièces. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, qui est assez important. Enfin, toujours d'essayer de questionner cette chose.
Ouais. Mais il me semble que dans la galerie du Cairn, on trouve aussi un carnet de voyage.
Le carnet, c'est l'épaisseur de la montagne. Voilà, ça c'est le carnet de voyage.
Ouais. Et puis, il y a tout l'espace de documentation aussi. Qui est ouvert pour que chacun fasse effectivement son voyage à travers les lectures qui sont mises à disposition et la carte.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut parler du pré-projet, quoi.
On va refaire une petite pause musicale, là. Thank you. Eh bien, nous retrouvons notre artiste Bram Poincheval, Laura Bram. On se pose une question aussi sur le titre de cet atelier, de cette performance. Bon, le voyage invisible, je pense que tout le monde a compris, mais pourquoi Girovague ?
Eh bien, Girovague, parce que voilà, bon, je suis assez sensible à l'histoire des ermites, parce que, bon, pourquoi ? Simplement parce que c'est des gens qui, à un moment, vers le 4e siècle, se posent simplement la question de, bah, je pense simplement, qu'est-ce que c'est le réel, et puis qui ont envie de changer les perceptions du monde et qui essaient des pratiques totalement, on peut dire, quand même assez farfelues, genre certains de marcher juste sur un pied, d'autres se mettent au sommet d'une colonne, encore d'autres s'enfermer, voilà. Et je cherchais par rapport à ce projet-là les ermites, je trouvais ça intéressant. Bon, il y en a aussi du côté de Digne, il y en a eu avant aussi dans d'autres endroits, et c'était cette idée d'être un ermite, mais je me disais, mais le problème, moi je veux me déplacer, donc un ermite qui se déplace, comment je peux trouver ça? Et en fait, tout simplement en faisant une recherche, j'ai trouvé Girovague, les moines Girovague, en fait, qui étaient des ermites errants. Et puis aussi qui n'appartenait à aucune congrégation, donc je trouvais ça assez intéressant, ce fait comme ça d'être une sorte d'ermite qui se déplace, voilà. Et puis si on prend la racine grecque ou latine, je me rappelle plus exactement, Girovagus, en fait ça veut dire c'est de l'ordre du cercle et du déplacement en cercle,
cyclique,
voilà.
Vague, cyclique, oui.
Donc du coup je trouvais que ça allait très bien aussi avec la forme de la capsule.
Exactement.
Donc voilà. Et donc du coup, quand je parlais aussi de cette idée d'atelier tout à l'heure, en disant oui, voilà, ce sont aussi des moments où se préparent les autres projets. En fait, c'est un moment où c'était assez fort parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres avec les animaux que je n'ai pas toujours vues. C'était plutôt de l'ordre auditif, ou voilà. Mais et tout à coup est apparu, enfin bon, il y avait déjà, c'était déjà un peu là, mais quand même est apparu cette idée de se dire, mais est-ce que je pourrais vivre avec des animaux, enfin, ou dans un animal comme un animal? Et je me dis, ah oui, ben voilà un truc assez intéressant, comment je pourrais me projeter dans un animal, est-ce que je pourrais être un animal? Et comme ça, petit à petit, est née cette idée d'un projet de vivre, d'habiter dans un ours. Voilà.
Dans une peau d'ours.
Dans une peau d'ours, voilà. Dire. Et ce qui est, d'où est né le projet Ours.
Et là, je vois donc sur les dépliants qui ont été imprimés, que c'est un ours naturalisé. Mm. Donc un réel ours.
Un véritable ours, oui. Voilà, oui, qui est, dont on attend la peau, là, qui vient d'Amérique du Nord, voilà, chassé par des Amérindiens et qui devrait arriver d'ici peu.
Et dans cet ours, vous trouverez comme un fœtus, ou plutôt avec les bras qui iraient dans les pattes. Enfin, j'ai un petit peu du mal à imaginer. D'ailleurs, j'ai même du mal à imaginer la taille d'un ours.
C'est-à-dire
gigantesque.
Ouais. Bon, celui-ci est un peu gros. C'est, en fait, il est entre l'ours réel et l'ours mythologique, en fait. Enfin. Mais en fait, il est juste à la limite du maximum de ce que peut être un ours. Oui, en fait, non, dans cet ours, en fait, je suis juste allongé, hein, je suis à l'intérieur du ventre de l'ours. Je vais essayer d'y... Alors, pas là, parce qu'en fait, l'exposition, comme je disais tout à l'heure, c'est ce découpage dans le temps d'une exposition de la présentation. Là, la première partie que l'on fait à Digne, c'est la présentation, en fait, une sorte d'atelier, genre voilà, de l'ours presque terminé, j'espère, avec un ensemble d'aquarelles, de dessins, de... Alors là aussi, il y a des dessins qui ne sont pas que de moi, il y a des dessins aussi de Jean-Paul, qui est aussi le technicien du musée, parce qu'on travaille à deux sur la fabrication. Ça aussi, c'est des choses aussi qui m'intéressent assez, de pas être tout seul, et qu'on arrive à créer une petite équipe et à fabriquer l'objet. Donc du coup, c'est la première partie, c'est la présentation du projet, voilà, où les gens peuvent s'imaginer, parce que ça aussi c'est assez fort, ça a une puissance évocatrice, en fait, avant de faire la performance, de simplement présenter l'objet dans lequel va se passer la performance, parce que les gens tout à coup se l'accaparent, se l'approprient et se projettent dedans en se disant, mais moi, si j'étais dedans, comment ça se passerait? Et donc c'est aussi cette idée que chacun reparte aussi une sorte de récit qui se fait à lui, et un voyage aussi qui se produit par lui-même. Donc voilà.
Et alors, la performance, alors, durera combien de temps? Vous allez rentrer dans le ventre de l'ours?
Alors, la performance, oui, ce serait en fait à peu près de vivre enfermé à l'intérieur de l'ours. Pour l'instant, l'idée est de rester 15 jours. Bon, après, tout ça est encore en préparation. Il y aura peut-être des réductions ou je ne pense pas que ça s'allongera. Mais voilà, c'est toujours pareil. Enfin, c'est toujours des choses où je me dis, voilà, j'essaie de calculer le temps que je peux rester quelque part, quoi. Voilà, par exemple, quand j'étais dans le trou sous terre, sous la pierre, je me suis simplement assis sur ma chaise chez moi et je me suis dit, voilà, Abraham, tu seras dans cette position-là. Combien de temps penses-tu pouvoir rester assis simplement comme ça? Donc voilà. Et donc, au bout d'une heure, je me suis dit, une semaine, je pense que c'est jouable. Voilà. Et après, pour l'ours, c'est pareil. Je me suis dit, bon, imagine-toi, tu es enfermé à l'intérieur de ce truc. Voilà, combien de temps tu imagines pouvoir tenir d'être juste à la frontière, quoi, et puis de me dire peut-être 15 jours, je pense que c'est réalisable. Alors je sais pas, à un moment je me disais, mais il faudrait peut-être que je regarde le temps de digestion de l'ours, parce que je me dis peut-être que je pourrais rester le temps d'une digestion aussi. Voilà, parce que ça vient aussi de toutes ces récits un peu mythologiques sur l'ours, qui représente en fait une sorte de nature perdu en fait, qui a été domestiqué par l'homme, ce fantasme, cette idée de retrouver une sorte de nature première qui serait vierge de toute humanité, et donc où on retrouverait bien entendu des animaux incroyables, dangereux, féroces. Et je trouvais que, parce que voilà, je me suis aussi posé la question, dans quel animal je peux habiter? Donc alors bien entendu, un chien c'est trop petit.
J'aurais pensé à la baleine.
Ou la baleine. Mais la baleine très compliquée parce que déjà c'est un animal protégé. Et puis il y a tous ces récits.
L'ours aussi d'ailleurs est protégé.
C'est pour ça qu'il vient des États-Unis.
Il y a une baleine naturalisée.
Ouais, c'est beaucoup plus compliqué il y avait tous ces soucis aussi techniques.
Et puis il y a aussi l'ours, c'est un animal qui était ici, c'est pas pour rien qu'on fait le projet à Digne. C'est lié à notre histoire. Alors ça renvoie à des mémoires, à des cultures. Et puis c'est assez universel aussi comme animal.
C'est ça qui est chercher aussi un animal qui soit plus terrien en fait que mammifère, la baleine l'est aussi, mais qui soit plus proche de, enfin la baleine c'est proche de notre histoire, mais ça a tout de suite un côté beaucoup plus lointain, beaucoup plus de l'ordre du mythe, alors que l'ours c'est à la fois de l'ordre du mythe et c'est de la réalité en même temps, et c'est ça qui m'intéressait, c'était ces deux espaces en fait. Je me suis disais, mais comment cet ours se situe? En fait, il se situe à la frontière. D'ailleurs, c'est ce qui lui a sans doute valu beaucoup d'animosité. C'est qu'en fait, il est entre le mythe, entre la magie, des choses comme ça, et dans la réalité aussi. Donc,
Et une proximité avec l'homme aussi, puisque dans l'histoire, certaines cultures ont pensé qu'il y avait une parenté entre l'ours et l'homme. Puisque ils pouvaient se dresser tous les deux, voilà. Donc c'était ça trouble aussi. C'est un animal qui a beaucoup de.
On peut dire un personnage.
Se dresser, vous l'employez au sens se dresser sur ses jambes.
Oui,
parce qu'il y a eu beaucoup d'ours dressés et des ours de foire.
Oui, aussi, ça questionne la relation de l'homme avec l'animal, qui a souvent été violente. Et là, c'est une histoire d'extermination, puisque l'ours était dans les Alpes, il n'y est plus malheureusement.
Il est encore un petit peu dans les Pyrénées. Et aussi l'ours, tel un Abraham point cheval, s'enferme pendant longtemps sous terre, sans bouger.
Oui, voilà, il y a aussi cette chose d'enfermement, mais pareil, d'une capsule en fait dans laquelle je voyagerais, et puis là je voyagerais dans un ours. Il y avait aussi toute cette idée en fait au travers du chamanisme, en fait lorsque en fait la personne est, comment dire, au moment des rituels, tout à coup on dit toujours il y a l'animal totem, des choses comme ça, et comment il y a toujours ce récit, les gens qui disent moi je suis le serpent, moi je suis la souris, et je me disais moi j'aimerais bien être un animal, mais sans passer par ça, sans pas passer par ce rite chamanique en fait, parce que d'une je me disais c'est assez loin de ma culture à moi, et je me disais mais alors comment je peux habiter un animal, comment je peux être un animal avec des moyens très simples qui sont beaucoup plus liés à mon quotidien, à ma vie maintenant. Et je me suis dit, bah voilà, c'est de se mettre dans l'animal, c'est de se glisser dans la peau de l'animal. Bon, et puis on s'aperçoit finalement dans beaucoup de rituels anciens, mais qui existent encore aujourd'hui, de danses, de choses folkloriques. Beaucoup de masques ou de costumes d'ours où des gens sont habillés en peau d'ours. Voilà.
Il y a des rites dans les Pyrénées aujourd'hui, des Pyrénées, carnavals. Ouais.
Donc ça aussi, voilà, ça, je trouvais que tout ça, je me disais, c'est une façon de pouvoir réhabiter tout ça, voilà, de se reglisser là-dedans.
Voilà. Dans tous les sens du terme. Alors, Lauriane Auré, vous suivez cette histoire d'ours de très près.
Oui, et je dirais qu'Abraham, il a la capacité de transformer les rêves en réalité, comme la vivre en ours, marcher sur la canopée nuageuse, c'est un autre projet. C'est comme donc en suivant un peu au jour le jour le projet, on a l'impression que c'est... En fait, que des morceaux de fiction, là, cette idée de vivre dans un ours, rentre dans notre quotidien, dans notre réalité. Et alors, voilà, on pourrait se dire que c'est un défi, et on a aussi l'impression que c'est un peu une promesse pour tous les gens qui l'embarquent avec lui dans le projet. Ils sont nombreux, il y a le responsable technique du musée qui travaille beaucoup avec Abraham pour construire cet ours. Et puis, tous les jours, on voit grandir, voilà, on le voit évoluer, cet ours. Et quand il arrive avec un projet, Abraham, c'est un peu comme s'il disait, bon, voilà, j'ai une idée, comme dans un jeu d'enfant, on dirait que j'allais vivre dans un ours. Alors, normalement, dans les rêves d'enfant, bah, ça reste de l'ordre du jeu. Et puis là, il se contente pas de ce rêve, il va tout mettre en œuvre pour que cela devienne réalité. Et finalement, la construction du projet, donc la construction de... C'était pareil avec le gyrovague, et là, avec l'ours, ça devient une aventure. Ça fonctionne par étapes, il y a des problèmes, des contraintes à résoudre, et il y a des rebondissements, comme ça. Et nous, ça, en étant voilà, dans le musée, à ce moment-là où l'ours se construit dans l'atelier, on se laisse prendre au jeu, et... Voilà, il y a des matins où on arrive et tous les matins on demande où en est l'ours. C'est un petit peu magique. On dit allez, on va voir l'ours dans les coulisses du musée. Et c'est un petit peu comme si on était propulsé dans une fiction, comme si on était ramené à l'enfance, dans ce moment de grâce où on distingue pas toujours le réel de l'imaginaire. Et ça fait du bien de temps en temps de retourner à ces endroits un peu flous qui nous font rêver. Je dirais même que ça peut nous réconforter un peu, parce que finalement, de pouvoir finalement mener à bout des projets un peu fous auxquels on n'aurait pas cru au départ, et que finalement il va réussir à faire, ça peut un petit peu nous venger de toutes ces fois où on a rêvé, où on a fait des projets fous et que la réalité n'a pas vu aboutir. Voilà. Donc il y a vraiment, c'est pour ça, c'est cette part de l'enfance, je pense, qui fait que les projets d'Abraham, ils sont souvent très, très appréciés de personnes très différentes, et voilà, en particulier des enfants avec qui on a pu visiter l'exposition, et on a vu à quel point ils partent tout de suite dans cet univers. Bon, bien sûr, réaliser les rêves, c'est pas si simple, hein, quand même. Donc, il y a cette partie de la confrontation avec la réalité qui est la grosse partie du travail. Et donc, on se confronte aux contraintes techniques, biologiques, logistiques, et il faut les dépasser. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham est mis à rude épreuve au moment de la performance. Il s'agit de repousser les limites de l'être humain, comment pouvoir rester dans cet habitacle pendant 15 jours avec 20 cm au-dessus de la tête pour respirer. Alors on pourrait vraiment se demander pourquoi se faire violence comme ça. Et moi j'aurais envie de juste de dire que ben, si c'est pour réaliser des rêves, ça vaut la peine. Oui. Voilà, c'est un petit peu le regard qu'on peut porter sur ce projet. Qu'on va continuer à voir grandir au fil des mois jusqu'à la réalisation de la performance en courant 2014 si tout se passe bien. Alors, ça n'aura pas lieu à Digne, ça aura sûrement lieu à Paris, mais on ne sait pas encore. Mais en tout cas, là, l'exposition qui est présentée en ce moment au Cairn retranscrit un petit peu toutes ces étapes de la création de l'ours. Voilà.
Mais cet ours, on pourra le voir en vrai le 9 juillet.
Ah oui.
Ça se passera au Cairn, c'est cela
Voilà, c'est ça, avec donc des dessins, mais tu vas mieux en parler, des dessins, et puis l'ours qui aura été construit.
Voilà, ouais. Et puis oui, l'ours, j'espère réaliser entièrement, parce que bon, on attend toujours un peu la peau là, mais bon voilà, ça fait partie du jeu aussi, de la contrainte aussi, des péripéties, des voyages.
Et puis ça nous rappelle le proverbe bien connu.
Oui, ne pas vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'ailleurs, ce grand ours, c'est peut-être une grande ours.
Oui, aussi. Bah, de toute façon, après, on peut... Je l'appelle plus ours au féminin, bizarrement. Mais voilà.
Bon, après, parce qu'elle a dans le ventre aussi.
Ouais, voilà, pour porter un petit Abraham dans son ventre, voilà. C'est sûrement une ours. Et puis la grande ours, quand même, ça nous reprojette voilà, dans les étoiles et on aussi, repart avec Gagarine et la capsule.
Exactement. Ouais. Non, mais tout ça n'est pas très éloigné les uns des autres. En fait, finalement, tout ça se connecte. Petit à petit. Et donc c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est petit à petit aussi de créer une sorte de constellation de projets en fait qui construisent un univers. Et c'est là aussi l'intérêt de l'art, c'est petit à petit se créer les choses.
C'est la bonne transition peut-être pour annoncer le... on a essayé de, par une constellation comme ça, de relier différents ours qui étaient présents sur le territoire. Les ours de Marc Dayon, par exemple. Donc il y a un ours, un squelette d'ours au musée Gassendi qu'on peut découvrir. Et il y a l'autre ours de Marc Dayon au fort de Seyne-les-Alpes. Voilà, donc on propose un petit parcours d'œuvres thématiques qui part de l'exposition du Cairn et qui propose d'aller, de parcourir le territoire à la recherche des ours qui s'y cachent. Voilà. Donc vous pouvez trouver ça sur le site du musée ou dans les offices du tourisme, ces petits dépliants.
Petit dépliant, pas si petit que ça d'ailleurs.
Oui,
je l'ai entre les mains. C'est une
carte qui reprend la constellation de la grande ours.
Oui, oui.
Et voilà où il y a quelques indications pour pouvoir découvrir ce parcours.
Et d'autres projets, Abraham, d'ici cet enfermement dans le ventre de l'ours ?
Oui, il y a d'autres projets. Bon, en ce moment, il y a un projet à Marseille. Bon, alors là, c'est un peu différent parce que c'est un projet à 5 artistes avec le bureau des compétences et des désirs sur une place qui s'appelle la place Velten. Là, c'est une sorte de montagne qu'on a fabriquée. Donc c'est une chose à aller voir. Donc là, c'est un projet à cinq artistes. Sinon, en préparation, mais là, une autre pierre, en fait, un autre projet enfermé sous une pierre. Mais là, non plus dans une librairie, mais dans un espace public, dans une ville. Et en parallèle à ça, débute le projet, en fait, pour marcher sur la canopée nuageuse. Voilà.
Ça se passera comment ?
Oh, ça se passera comment ? Ça se passera très simplement. C'est, en fait, c'est à peu près au niveau des premiers nuages, c'est-à-dire qu'on est à entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Et en fait, c'est juste un hélicoptère qui m'élitreillera là-haut et qui me déposera par un filin sur un nuage où je boirai le temps de peu près 5 ou 10 minutes d'une tasse de thé et... Où ça, c'est plus un film en fait là, et où un autre hélicoptère là filmerait mon voyage sur ce nuage. Voilà, en fait une sorte de frontière. Voilà, je me posais la question de bon déjà, je trouvais que c'était parce que je me disais voilà qu'est-ce que c'est qu'un nuage, et je trouvais que ceux qui l'avaient le plus étudié finalement c'était l'art, c'était dans l'art qu'on avait le plus étudié les nuages, parce que depuis le début de on commence à dessiner des choses, en fait, on dessine des nuages. Donc on leur donne forme, on essaie de comprendre comment ça marche, tout ça. Et donc voilà, je me disais, c'était très bien d'être peut-être le premier homme à marcher sur les nuages. On sait bien que les nuages, on ne peut pas marcher dessus. Enfin voilà, c'est de l'état gazeux, c'est de l'état vaporeux. Mais par la magie de l'art, en fait, par ce qu'est l'art contemporain, par ce qu'est l'art, on peut arriver à un moment donné à marcher dessus, à se tenir juste à la limite, juste à un moment dessus. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait. Là aussi, voilà, question de frontières, de limites, de choses comme ça. Et puis, c'était aussi sur cette question du paysage aussi, où, par exemple, quand on dit la périphérie d'une ville, si on est à l'horizontale, on voit très bien où ça se situe. Enfin, des fois, c'est plus compliqué maintenant, parce que les choses évoluent, mais... On sent les périphéries par nos passages, enfin voilà. Mais si cette périphérie qui est à l'horizontale, si on la place à la verticale, où elle se trouve, par exemple. Et voilà, en cherchant simplement une façon un peu scientifique, en fait, tout à coup, transformer cette échelle, la mettre à la verticale. Bon, alors voilà, par exemple, j'ai déjà été sous terre. Donc,
et une échelle se met souvent à la verticale.
Voilà,
d'ailleurs.
Oui, exactement. Et donc, du coup, là, tout à coup, hop, je me suis dit, peut-être que la périphérie, c'est les nuages. Et d'ailleurs, on appelle les tours les plus hautes les gratte-ciel. Voilà, on est un peu sur cette chose-là.
En tout cas, moi, j'en retiens que pour un artiste contemporain, il ne faut ni être claustrophobe, ni craindre le vertige. Eh bien, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Petit mot de conclusion, Abraham, Laurie ?
On va redire les dates de l'exposition. Là. Donc, c'est à partir du mardi 9 juillet, à 18h, le vernissage. Et puis, donc, ça dure tout l'été.
Voilà, et c'est donc au Cairn.
Au centre d'art.
Au 1 boulevard Victor Hugo à Digne. Voilà, puis toujours visible, bien que ce voyage soit invisible. Donc Girovague, c'est toujours la galerie du Cairn et c'est jusqu'au 30 juin. Eh bien, il me reste à vous remercier. Souhaiter bonne chance à Abraham pour ses projets futurs, tous plus osés ou loufoques, cela dépend comment on voit ça. Donc tous plus osés ou loufoques les uns que les autres. Et puis merci à Laurie pour l'accompagner dans ses projets osés et loufoques.
Ben merci.
Merci.
Merci à vous.